Chapitre 41. Sans dormir. Cela fait maintenant 10 mois qu'Axel Rissen a fait la connaissance de Beverly Anderson. Tout avait débuté à cause de ses insomnies. Depuis un événement qui remonte à plus de 30 ans, il s'endort très difficilement. Tant qu'il prenait des somnifères, il parvenait à conserver un rythme de vie à peu près normal. Il le plongeait dans un sommeil chimique, sans rêve, peut-être même sans véritable repos. Mais au moins, il dormait. Il avait dû augmenter continuellement les doses afin de garantir l'efficacité du médicament. Ses comprimés créaient comme un bruissement soporifique qui couvrait le tumulte de ses pensées. Il adorait ses somnifères et les prenait avec un whisky onéreux. Mais après plus de 20 ans d'une consommation ininterrompue, son frère l'a un jour retrouvé étendu dans le vestibule, du sang s'écoulant de ses deux narines. À l'hôpital Karolinska, on lui a diagnostiqué une grave cirrhose. Les cellules de son foie étaient si endommagées que, une fois passé le délai de contrôle obligatoire, on l'a immédiatement inscrit sur la liste d'attente pour une transplantation du foie. Mais comme il appartenait au groupe sanguin O et que son tissu cellulaire était très particulier, le nombre de donneurs compatibles s'était vu considérablement réduit. Son frère cadet était l'un d'entre eux et aurait pu lui donner une partie de son foie s'il n'avait pas eu un problème de rythme cardiaque qui ne permettait pas d'assurer son réveil après une telle opération. L'espoir de trouver un donneur était donc quasi nul, mais en se privant totalement d'alcool et de somnifères, Axel avait une chance de s'en sortir. Avec des doses régulières de conaquion, de propanolol et de spironolactone, son foie assurerait ses fonctions principales et il pourrait vivre presque normalement. Sans les somnifères, il ne trouvait plus le sommeil et ne dormait souvent qu'une heure par nuit. Il fut alors admis dans une clinique du sommeil à Göteborg, où, en effectuant une polysomnographie, on avait pu diagnostiquer son insomnie chronique. Comme toute forme de médication était exclue, on lui a seulement conseillé différentes techniques d'endormissement telles que la méditation, l'hypnose et l'autosuggestion, sans qu'aucune ne fasse preuve d'une quelconque efficacité. 8 mois après son premier séjour à l'hôpital, il n'a pu fermer l'œil pendant 9 jours consécutifs, ce qui a eu pour effet de le plonger dans un état psychotique. Il a été admis de son propre gré à la clinique psychiatrique Santa Maria Hierta. Il y a rencontré Beverly. À l'époque, elle avait à peine 14 ans. Axel était allongé dans sa chambre et, comme d'habitude, il ne parvenait pas à s'endormir. Il était peut-être 3 heures du matin et la pièce était plongée dans l'obscurité lorsqu'elle a ouvert la porte. Elle errait comme une âme en peine dans les couloirs de la clinique. Peut-être cherchait-elle simplement de la compagnie. Il était allongé, éveillé et désespéré lorsqu'elle est entrée. Elle se tenait immobile devant lui, sa longue chemise de nuit traînait par terre. « J'ai vu la lumière qui venait d'ici, » chuchota-t-elle. « Une lueur émane de toi. » Ensuite, elle l'a rejoint dans son lit. Le manque de sommeil lui avait ôté tout esprit critique et il ne savait pas ce qu'il faisait. Il l'a prise dans ses bras, beaucoup trop fort, et l'a serrée contre lui. Elle ne disait rien. Elle restait simplement allongée auprès de lui. Il s'accrochait à son corps frêle, blottissait son visage dans son cou, et soudain, il s'est endormi. Elle lui avait permis de plonger dans l'eau douce du sommeil et des rêves. La première fois, cela n'avait duré que quelques minutes, mais après cette nuit, elle revenait toujours à lui. Il s'agrippait à elle, la serrait contre lui et s'endormait trempé de sueur. Son instabilité psychique avait disparu comme par magie et Beverly avait cessé d'errer dans les couloirs. Axel Rissen et Beverly Anderson avaient choisi d'un commun accord de quitter Santa Maria Hierta. Ce qui s'était passé ensuite avait été la conséquence d'un accord tacite conclu entre deux êtres désespérés. Ils savaient que la véritable nature de leur entente devait rester secrète, et, pour sauver les apparences, Beverly avait obtenu l'autorisation de son père d'être logé dans une partie indépendante de l'appartement d'Axel Rissen en attendant de trouver son propre appartement de jeune étudiante. Beverly Anderson est désormais âgée de 15 ans, et un trouble de la personnalité dit « borderline » lui a été depuis diagnostiqué. Son rapport à autrui est très excessif et la faculté à imposer des limites lui fait défaut. Elle n'a pas un instinct de conservation normal. Autrefois, les jeunes filles comme Beverly étaient enfermées dans des asiles d'aliénés et stérilisées ou lobotomisées de crainte qu'elles ne se livrent à une sexualité débridée et à la débauche. Parfois, elles accordaient une confiance aveugle à des personnes mal intentionnées et les suivaient chez elles. Mais Beverly a eu de la chance de tomber sur Axel Rissen. Il se le répète sans cesse. Il n'est pas un pédophile et ne cherche pas à lui faire du mal ou à l'exploiter dans un but lucratif. Il a seulement besoin d'elle pour s'endormir, pour ne pas s'effondrer. Elle dit souvent qu'ils se marieront lorsqu'elle sera suffisamment âgée. Axel Rissen la laisse caresser l'idée d'un mariage futur, car cela la rend heureuse et calme. Il se persuade ainsi qu'il la protège du reste du monde tout en étant parfaitement conscient de profiter d'elle. Il en a honte, mais ne parvient pas à trouver d'issue à leur situation. La crainte de se perdre à nouveau dans le néant de l'insomnie demeure plus forte que tout. Beverly sort de la salle de bain avec sa brosse à dents dans la bouche. Elle hoche la tête en direction des trois violons accrochés au mur. « Pourquoi tu n'en joues pas ?»«
Je ne peux pas, » dit-il avec un sourire.
« Ils vont rester comme ça sur le mur ? Donne-les plutôt à quelqu'un qui en joue. »
« J'aime bien ces violons. C'est Robert qui me les a donnés. »
« Tu ne parles presque jamais de ton frère ?»«
C'est compliqué. »«
Il fabrique des violons dans son atelier. » ?»«
Oui, Robert fabrique ses violons et joue dans un orchestre de chambre. »«
Tu crois qu'il pourrait jouer à notre mariage ?»
demande-t-elle en essuyant du dentifrice resté au coin de sa bouche. Axel la regarde et espère qu'elle ne s'aperçoit pas de l'expression figée que prend son visage lorsqu'il lui répond « C'est une merveilleuse idée. » Il sent la fatigue l'envahir, déferler dans son corps et dans son cœur. Il passe devant elle, entre dans la chambre à coucher et s'affaisse sur le bord du lit. « J'ai sommeil, je... »«
Pauvre Axel, »
dit-elle d'un ton grave. Il secoue la tête. « J'ai juste besoin de dormir. » D'un coup, il se sent au bord des larmes. Il se lève et attrape une chemise de nuit en coton rose.
« S'il te plaît, Beverly, enfile ça. »« Si tu veux. »
Elle s'immobilise devant la grande peinture à l'huile d'Ernst Billgren qui représente un renard habillé, assis dans un fauteuil dans une maison bourgeoise.
« Horrible, ce tableau !»
dit-elle.
« Tu trouves ?»
Elle hoche la tête et commence à se déshabiller. « Tu ne peux pas te changer dans la salle de bain. » Elle hausse les épaules. Et il détourne le regard lorsqu'elle retire son bustier rose. Il s'approche du tableau, l'observe un instant, puis le décroche et le pose à terre, face au mur. Axel dort d'un sommeil lourd, le visage chiffonné et les mâchoires crispées. Il serre Beverly contre lui. Soudain, il se réveille. Relâche son étreinte et cherche à reprendre son souffle comme s'il était sur le point de se noyer. Il est trempé de sueur et son cœur bat la chamade. Il allume la lampe de chevet. Beverly dort paisiblement comme un petit enfant, la bouche ouverte et le front humide. Axel repense à Karl Palmkrona. Leur dernière rencontre remonte à l'Assemblée générale de la noblesse à Rida Russet. Palmkrona était éméché et avait eu un comportement légèrement agressif. Il rabâchait toujours les mêmes phrases à propos des différents embargos sur les armes de l'ONU en terminant par ces mots stupéfiants.
« Si tout foire, il ne nous reste plus qu'à faire notre Algernon pour éviter d'affronter notre cauchemar. »
Axel éteint la lumière, mais les mots de Palmkrona résonnent toujours dans sa tête. Que signifiait faire notre Algernon? De quel cauchemar parlait-il? Avait-il réellement dit ça? Éviter d'affronter son cauchemar. La mort de Carl Fredrik Algernon en Suède n'a jamais été élucidée. Algernon était l'inspecteur en charge du matériel de guerre au sein du ministère des Affaires étrangères. Un jour de janvier, il avait eu un entretien avec le patron du groupe Nobel Industries, Anders Carlberg, lors duquel celui-ci lui avait révélé qu'après enquête, on avait découvert que l'une des sociétés du groupe exportait clandestinement des armes à des pays voisins du golfe Persique. Plus tard, le même jour, Carl Fredrik Algernon était tombé devant une rame de métro à la Centralen de Stockholm. De moins en moins clair, les pensées d'Axel errent entre les accusations de trafic d'armes et de pots de vin qui avaient été dirigées contre la société anonyme Bofors. L'image d'un homme en trench coat qui tombe en arrière devant une rame de métro lancée à pleine vitesse prend forme dans son imagination. Lentement, l'homme chute. Son manteau flotte autour de lui. Axel est bercé par la douce respiration de Beverly qui semble l'absorber peu à peu. Il se tourne vers elle et pose son bras autour de son corps frêle. Elle pousse un léger soupir lorsqu'il se blottit contre elle. Axel la serre dans ses bras. Les brumes du sommeil se massent dans son esprit, ses pensées s'évaporent. Il passe le reste de la nuit à dormir d'un sommeil léger avant d'être réveillé vers 5 heures par l'étreinte convulsive qu'il exerce sur les bras frêles de la jeune fille. Il sent ses cheveux coupés ras lui chatouiller les lèvres et regrette ardemment de ne pas pouvoir prendre ses cachets.